Mercredi 24 mars 2021, il vient d'être 17h à Niamey lors du journal en français du studio Kalangou à la présentation Rafika Taher. À la une dans ce journal, début ce matin à Niamey du Forum de la paix et de la stabilisation dans le bassin central et le Sahel. Les objectifs de cette rencontre dans un instant. Déclaration hier des députés de l'opposition à Niamey. Ils ont dressé les conditions dans lesquelles le nouveau Parlement prend fonction. À suivre dans ce journal un extrait de la déclaration. Et dans la partie magazine de ce journal, un chef de famille témoigne de l'impact de la COVID-19 sur les relations sociales. Stabilisation des zones de conflit et lutte contre le terrorisme insurrectionnel dans le Sahel central et le bassin du lac Tchad, c'est le thème du forum sur la paix et la stabilisation qui se tient sur 2 jours à Niamey. Le forum est organisé par la Haute Autorité à la consolidation de la paix du Niger avec l'appui technique du Programme des Nations Unies pour le développement et le soutien conceptuel de l'Institut d'études de sécurité. Ornella Moderan de l'ISS du Mali explique les objectifs de la rencontre. Elle est au micro de Habibou Garba.
L'objet de cette rencontre est d'animer une réflexion collective, globale, sur les défis liés à l'extrémisme violent, au terrorisme insurrectionnel et à la stabilisation dans le Sahel central, compris comme étant le Mali, le Niger et le Burkina, ainsi que dans le bassin du lac Tchad. Ce sont des défis de sécurité et de gouvernance importants qui se posent à l'ensemble des pays du G5 Sahel. Et le Niger, à travers la HACP, donc, a tenu à lancer une nouvelle dynamique de réflexion autour des solutions concrètes à apporter à ces défis-là. Les participants et participantes à cette conférence sont extrêmement variés. On a aussi bien des spécialistes et experts nationaux et internationaux que des praticiens et praticiennes de la stabilisation, que des décideurs publics. Donc on attend vraiment une profusion d'idées, de leçons apprises, de l'expérience, de propositions nouvelles qui puissent permettre d'aller plus loin dans ce qui est déjà fait dans la lutte contre l'insécurité et dans la protection et la sécurité humaine pour les populations.
Et avec la qualité des personnalités et autres experts, le Premier ministre Brigitte Raffini fonde l'espoir que le forum, qui est également un cadre de réflexion stratégique, permettra de mieux répondre aux besoins essentiels des populations des États du Sahel central et du bassin du lac Tchad. On l'écoute.
Il est urgent de ramener définitivement la paix. Il faut que nous travaillions à créer les conditions d'un développement durable dans cette sous-région qui en a tant besoin. La convergence des efforts est plus que jamais nécessaire. Avec le programme prioritaire de développement d'urgence du G5 Sahel, le moment est sans doute venu d'amorcer les politiques qui s'imposent pour le salut de notre sous-région. Nous devons tout mettre en œuvre pour le financement du plan d'investissement prioritaire du G5 Sahel. J'attends de cette conférence l'examen et la mise en évidence des liens qui doivent exister entre, d'un côté, les programmes de stabilisation et de l'autre, les opérations militaires de lutte contre le terrorisme insurrectionnel, couplées aux actions de sécurisation des populations conduites par les forces de sécurité intérieure. Je fonde l'espoir que cette conférence vous permettra de déboucher sur des recommandations qui nous permettront d'accélérer la sortie de crise.
C'était les propos recueillis par Habibou Garba. Les attaques menées par des groupes armés non étatiques contre les civils au Niger depuis le 2 janvier 2021 sont des représailles par lesquelles l'État islamique semble punir les populations locales qui ne se soumettent pas à sa volonté, estime Dr Niagale Bakayoko, présidente de Africa Security Service Network. Dr Ngale d'ajouter que la constitution au Niger des groupes locaux d'autodéfense dans ce conflit est préoccupante. On l'écoute au micro de Tarnan Foudey Ahmed.
Depuis le 2 janvier, que ce soit dans la région de Tillabéri ou maintenant dans celle de Tawa, on voit que ce sont des civils appartenant à des communautés explicitement identifiés qui deviennent des cibles en parlant de représailles par lesquelles l'État islamique semble punir ceux qui s'opposent à sa volonté, soit en termes de prélèvement de la zakat, soit en termes de collaboration éventuelle avec les forces de défense et de sécurité. En effet, la constitution de groupes locaux d'autodéfense, de protection, apparaît comme une tendance dans la mesure où les populations locales estiment que les forces de défense nationale ne sont pas en mesure de leur apporter la protection. Au Niger, cette évolution me paraît particulièrement préoccupante.
Seyni Oumarou, nouveau président de l'Assemblée nationale du Niger pour la troisième législature de la 7e République. Il a été élu hier par les parlementaires avec 129 voix pour, 0 contre et 0 abstention, à l'absence des députés membres de l'opposition. Le nouveau président du Parlement nigérien a prêté serment ce matin devant la Cour constitutionnelle. Dans une déclaration hier, les députés de l'opposition ont situé le contexte dans lequel le nouveau Parlement du Niger prend fonction, notamment l'insécurité et le trafic de drogue qui sévissent dans le pays. Les députés de l'opposition entendent demander la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire afin de situer les responsabilités. Un extrait de la déclaration lu par un député.
Cette nouvelle législature commence dans un contexte difficile, avec les multiples agressions criminelles dont sont victimes les populations du Niger. La récurrence et la barbarie de ces exécutions ont fait plus de 200 victimes innocentes en une semaine au cours de ce mois de mars. Au même moment, nous assistons impuissants à une amplification du trafic de drogue dans notre pays. En effet, les multiples saisies de drogue opérées ces derniers temps illustrent la collusion des trafiquants et des terroristes. Pour situer les différentes responsabilités, nous, députés de la coalition de l'opposition, allons demander la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur ce terrorisme et sur le trafic de drogue.
Propos recueillis par Tarnan Foudey Ahmed. Ouverture ce matin de la session ordinaire mensuelle du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de mars. 6 points sont inscrits à l'ordre du jour dans le projet de délibération définissant les modalités d'attribution des numéros logiques au service d'édition de communication audiovisuelle. Dr Kabir Sani, président du CSC.
Le Conseil supérieur de la communication attribue un numéro logique à chacun des services diffusés par voie RCN terrestre en mode numérique. Il accorde un numéro au service édité par les médias d'État, puis au service autorisé pour une diffusion par voie RCN terrestre en mode analogique et faisant l'objet d'une reprise en mode numérique. Les modalités d'attribution des numéros pour les autres services sont définies par une délibération du Conseil supérieur de la communication. Fin de citation. C'est donc en application de cette disposition que nous allons examiner et adopter la délibération définissant les modalités d'attribution des numéros logiques au service d'édition de communication audiovisuelle, afin non seulement de faire accélérer le processus de la mise en œuvre effective de la TNT, mais aussi de donner un outil légal prévu par les textes en vigueur.
Vous l'avez écouté au micro de Salamatou Kadri. Le programme multi-acteurs collab porté par l'IRD, Makessence et Bond Innove a procédé ce matin à la session pitch des lauréats du projet Collab Santé. Ce dernier vise à connecter les acteurs de la santé de la mère et de l'enfant du Niger et du Mali. La session de ce matin consiste donc à laisser la parole aux 5 lauréats du Niger pour présenter leur projet. Les objectifs visés par ce programme et les initiatives d'accompagnement avec Djuma Dramé, responsable du programme au micro de Fanta Chamsou.
Le programme Collab Santé Mère Enfant, c'est un programme qui a pour objectif de participer à l'amélioration de l'état de santé de la mère et de l'enfant. Donc dans ce cadre-là, c'est non seulement la connexion de nos porteurs de projets avec le reste de l'écosystème de la santé mère-enfant au Niger, et aussi accompagner l'innovation. Il y a 2 phases d'accompagnement pour nos porteurs de projets. Là, ils sont sur la première phase. Donc ils bénéficient tous d'un financement de 4000 euros. Il faut savoir que le programme, dans sa globalité, est financé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français. Et la première phase d'accompagnement dure jusqu'en août. Donc la première phase d'accompagnement, c'est plus l'aide au prototypage, le test du prototype. La seconde phase d'accompagnement, ce sera un peu plus une mise à l'échelle avec un second versement de 6000 euros pour les projets qui seront retenus.
La ville de Tessawa fait actuellement face à un foyer de méningite. Les autorités sanitaires sont à pied d'œuvre pour contenir la maladie à travers un plan de riposte piloté par le comité de gestion des épidémies du district sanitaire de Tessawa. Dr Murtala Ibra, médecin-chef du district sanitaire, explique au micro de Seydou Senke.
La ville de Tessawa est dans un état d'épidémie de méningite. Depuis l'apparition de cette maladie, nous avons procédé à un prélèvement que nous avons envoyé aux autorités sanitaires de Maradi qui, à leur tour, vont l'envoyer à Niamey afin de déterminer la souche. Tous ceux qui sont atteints ont été isolés. Nous avons rassemblé tous les agents sanitaires pour qu'ils prennent connaissance de la situation qui prévaut. Aussi, nous avons vérifié notre stock de médicaments pour nous assurer de sa disponibilité et voir si en urgence même, nous pouvons traiter au moins 50 patients. Nous nous sommes rendus à l'école coranique du Limam pour faire un constat. Étant donné que les premières victimes proviennent de cette école coranique, nous avons placé une équipe là-bas. Nous avons pu vacciner près de 150 talibés, sinon plus. Au centre médical, nous avons mis un local à disposition pour l'isolement des patients atteints, pour les prendre en charge, et cela est gratuit.
La pandémie de la COVID-19 à Paris au Niger en mars 2020 a bouleversé les relations sociales tant dans les familles que sur les lieux de travail. Certains parents tiennent même leurs propres enfants à distance. C'est le cas de ce fonctionnaire et chef de famille, Maïda Hadou, rencontré par notre reporter Assoumana China.
En tant que chef de famille et travailleur, comment la COVID-19 vous a impacté à son arrivée au Niger?
Quand la COVID est arrivée, la première des choses que tout un chacun a vécu, particulièrement moi, c'est surtout la psychose. Chaque instant, des fois même, tu penses même que tu es atteint par le virus. Il suffit d'avoir un simple mot de tête ou d'avoir vraiment quelques désagréments. Vous avez en tête que vous êtes atteint par la maladie, quoi. De ce côté, vraiment, ça m'a impacté. Ça a impacté ma famille, puisqu'il y a un certain moment, quand je rentre même à la maison, quand je reviens du service, je m'éloigne même de mes enfants. Quand ils viennent à côté de moi, je leur dis vraiment de faire attention, de s'éloigner de moi, quoi. Et au service, c'est la même chose, il y a le climat de méfiance qui régnait en ville avec les amis, c'est la même chose. J'ai le sentiment comme si on est pris au piège, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque chaque fois qu'on sort, on retourne à la maison, on pense qu'on est atteint par le virus, quoi.
On a constaté que certaines personnes ne croient même pas à l'existence de la maladie. Comment avez-vous géré vos relations avec ces personnes?
C'était très difficile à gérer. Parce que vous allez surtout dans la vie active, quoi. Même parmi les intellectuels ou les fonctionnaires de façon générale, et quand vous appliquez les mesures édictées là, il y a ceux qui disent, vous savez, surtout chez nous au Niger, on dit, toi, et qu'est-ce que tu veux nous montrer? Quelle maladie? Si c'est une maladie qui tue là, réellement, il n'y a pas ce qu'on n'a pas vu. Si c'est une maladie qui tue, on allait tous mourir. On est habitué, c'est juste une simple grippe, quoi, et que tout le monde connaît. Vraiment, on a tellement banalisé. Et quand vous mettez aussi le masque là, ou bien la bavette, dès qu'on voit avec les gens, voit en vous un émancipé, quoi, qui n'est pas à l'ordre comme chez nous. Vraiment, il y a des gens, on pense que socialement, il y a des choses qu'on vit entre nous et on ne doit pas s'éloigner les uns des autres, quoi. Et c'est comme ça, c'est juste une simple grippe. Ou au service, même parmi les fonctionnaires, quand vous refusez de tendre la main à quelqu'un, il va vous dire, ah non, vous aussi là. Donc, ce qui fait qu'on a même peur de rencontrer les parents en ville, les collègues, les amis, on a peur même, sauf quelques intellectuels qui ont très bien compris. C'est un fait réel qui est là, il faut faire très attention, il faut appliquer les mesures barrières.
C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. À suivre le forum sur la drogue et les violences en milieu scolaire à Maradi. Et c'est dans une présentation de Mohamed Maman.
Bonjour Fanta, tu sais que tu peux facilement écouter et réécouter les actualités en appelant gratuitement le 325 avec le service RTL?
Mais c'est génial, partout au Niger et uniquement si j'ai une puce RTL?
Exactement, il te suffit de composer le 325 sur ton téléphone et tu peux écouter mais également réécouter à tout moment des journaux, magazines, des messages sur la santé et sur l'hygiène.
Super, c'est vraiment intéressant.
Et ce n'est pas tout. Tu peux aussi sélectionner la langue de ton choix et suivre les instructions sur le 325.
Suivez les actualités, c'est sur le 3, 2, 5 avec RTL Niger.